Nous arrivons, un peu comme la Vénus de Milo, à la fin d'un périple depuis ce matin, avec une dernière communication. Et je crois que ce n'est que justice, puisque cette communication sera très grecque. D'abord parce que c'est la communication d'Irini Apostolou, qui est historienne de la culture et de la littérature française au département de langue et de littérature française à l'université d'Athènes, l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Elle est l'auteur de « L'orientalisme des voyageurs français au XVIIIe siècle », une iconographie de l'Orient méditerranéen. Elle est aussi l'auteur de « L'image de l'espace grec à travers la revue Le Tour du Monde », ce « National Geographic » du XIXe siècle. Donc une spécialiste des récits de voyage au Levant, de l'orientalisme, des antiquaires et des perceptions et représentations de l'Orient en France au XVIIIe et au XIXe siècle. Donc très grec, mais aussi très grec parce que, contrairement au titre que j'ai un peu abusivement donné à cette journée d'études en parlant de la fièvre antiquaire dans l'Empire ottoman, nous parlerons aujourd'hui, maintenant avec Irini de la Grèce. En n'oubliant pas qu'à partir de 1830, il y a une Grèce, une vraie Grèce, une Grèce nationale, même si elle est un peu bavaroise, et une Grèce qui va s'inventer son passé et gérer son patrimoine. C'est donc deux fois la Grèce que nous allons écouter aujourd'hui pour conclure cette journée d'études avant la dernière séance de discussion. Merci.
Bonsoir, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je voudrais remercier le professeur Lidem pour sa proposition de participer à ce symposium, à cette journée d'études, sur un sujet vraiment passionnant. C'était une journée extrêmement riche en informations et qui traite les multiples facettes de l'émergence de la conscience patrimoniale dans l'Empire ottoman, en Grèce, mais également en Europe. Même si les Européens n'étaient pas l'objectif direct de cette journée d'études, finalement, tout tourne autour d'eux. Donc, le professeur Lidem m'a demandé de parler des acteurs grecs. Et comme on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur eux, je vais essayer de faire une introduction peut-être un peu longue. Et à la fin, je vais focaliser sur les années du gouvernement, de l'administration, du premier gouverneur de la Grèce, de Capodistria. Donc, ça va être à la fin si vous voulez, de la période révolutionnaire. C'est le début du nouvel État grec. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis la dernière qui parle. C'est pour clore, et du point de vue chronologique, cette journée d'études. Donc, considéré comme le berceau de la civilisation européenne, la Grèce a été dépouillée de vestiges de son illustre passé, surtout durant la période pré-révolutionnaire, les années 1780-1820, donc cette période de 40 ans, c'est la période durant laquelle a été réalisé l'enlèvement des plus importantes antiquités. L'engouement pour l'Antiquité des élites européennes, qui se manifesta également avec la réalisation du voyage en Grèce. Nous avons également au XIXe siècle la multiplication des voyages, surtout après Chateaubriand, il y a beaucoup d'étrangers qui visitent la Grèce. Et ces étrangers, ces occidentaux, notamment des Britanniques, des Français, mais également des Allemands, des Suédois, des Hollandais. Et ils veulent non seulement connaître la Grèce, visiter les lieux si prestigieux de son passé glorieux, mais également récupérer des antiquités pour soit former eux-mêmes des collections, soit les revendre dans de grands collectionneurs. Souvent, ce sont des riches mécènes, des rois, l'empereur, etc. Donc, le voyage donc, en Grèce est suivi de la spoliation des antiquités grecques, dont la plus connue et la plus médiatisée est celle du Lord Elgin, du Lord Elgin. Et donc, cette appropriation intellectuelle du passé grec, du passé de la Grèce antique, se transforme également à une appropriation matérielle de vestiges qu'on trouve sur place. Charles Lévêque, qui est un ancien membre de l'école française d'Athènes de la première moitié du XIXe siècle, dans son article « Les monuments d'Athènes et les études archéologiques en Grèce », publié dans la revue de Deux Mondes en 1851, il pose les problèmes de la prise de conscience, ou plutôt de l'absence de conscience patrimoniale chez les Européens. Parce qu'ils considèrent quoi ? Que selon eux, selon qui ? Selon ces étrangers qui avaient visité la Grèce et qui avaient enlevé des antiquités, donc selon eux, il dit, je cite, « Les monuments grecs n'appartiennent pas aux Turcs, qui ne sont pas grecs. Ils n'appartiennent pas non plus aux Grecs, qui sont esclaves. Ils sont donc aux premiers occupants. » Donc, bien avant les courants des études coloniales, parce que dernièrement, nous avons l'habitude de parler continuellement des études coloniales, et Charles Lévêque, très tôt, donc en 1850, dénonce le pratique colonialiste qui accompagnait la pratique interventionniste des Occidentaux en Grèce, non seulement durant la période ottomane, mais aussi durant la période révolutionnaire et post-révolutionnaire. Donc, la revendication de son passé par les Occidentaux, donc de ses passés grecs, qui se considéraient comme de véritables héritiers, heurta souvent contre la volonté des Grecs qui voulaient eux-mêmes affirmer la continuité de l'hellénisme. Donc qu'il y avait une histoire grecque depuis l'Antiquité jusqu'à la période qu'on étudie, donc jusqu'à la période du XIXe siècle, sans vraie interruption. Nous avons parlé ce matin de l'élite intellectuelle grecque qui ne se trouvait pas à l'époque à Athènes. Cette élite intellectuelle se trouvait un peu partout en Europe, à Balkans, il y avait certains qui étaient à Constantinople, en Russie, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Autriche. Et donc, il s'agissait d'abord des riches commerçants qui avaient réussi à avoir des titres, des titres parfois de noblesse, et qui avaient une solide éducation classique. Donc, cette continuité de l'hellénisme était étudiée et puis transmise aux différentes couches de la population par cette diaspora intellectuelle grecque qui se trouvait à l'étranger. C'est pourquoi, d'ailleurs, je me sers du terme diaspora. L'ère du discours, qui était adaptée aux besoins d'une nation qui était en train de se faire, en train de se réaliser. Je rappelle que le XIXe siècle est le siècle de nationalisme partout en Europe, ça ne concerne pas seulement la Grèce. Peut-être la révolution grecque du XIXe siècle est la plus médiatisée, mais elle n'est pas la seule. Donc, l'ère du discours était adaptée aux besoins des nations qui étaient en train de se former, cherchait à affirmer les caractéristiques de son identité nationale. Donc, pour les Grecs, la découverte et la sauvegarde des antiquités étaient surtout motivées par leur volonté de prouver leur lien avec l'antiquité grecque. La politique officielle, et ici je me réfère à la politique officielle des révolutionnaires, et puis du gouverneur, et puis bien sûr du roi grec, c'était de prouver les liens et d'empêcher l'enlèvement des antiquités et la mutilation de monuments par les étrangers, et d'autre part, de se servir de ces richesses culturelles qui existaient là pour se constituer une identité nationale. Cette émergence de la conscience patrimoniale en Grèce fut le résultat d'un long processus qui visait d'abord à améliorer les niveaux culturels et éducatifs des Grecs qui vivaient sous le joug ottoman. Dans le mémoire sur l'état actuel de la civilisation en Grèce, qui a été publié en 1803 par Korai, que vous voyez ici. Il s'agit d'un érudit grec qui vivait à Paris et qui avait commencé la constitution d'une bibliothèque, c'est-à-dire d'une série de livres qui étaient publiés l'un après l'autre. Donc, c'était surtout l'édition des textes anciens. Donc, dans ce livre, il signalait l'écart qui existait entre les Grecs modernes et les Grecs anciens. Donc, il disait quand même qu'il fallait prendre des mesures pour montrer cette continuité et pour arriver au niveau des Grecs anciens. Ce matin, nous avons parlé aussi de l'enlèvement de manuscrits du monastère de Patmos par le voyageur britannique Edward Clarke. C'est quelque chose qui a profondément énervé Corail, qui a exposé ses réflexions dans le livre que vous voyez à côté, qui est une édition des textes de Socrate. Donc, dans ses discours, il sollicitait notamment l'aide du patriarche de Constantinople et du concile. Et pourquoi? Parce qu'il fallait mettre une fin à ces spoliations. Et de quelle manière? C'était en protégeant d'abord les manuscrits. Donc, il avait conçu l'édification d'une bibliothèque, mais il ne s'agissait pas seulement d'une simple bibliothèque, et ça serait transformé également en musée, parce qu'outre les manuscrits, donc, il y aurait également des copies, on devait y réunir des médailles grecques, de vases et ustensiles, de pierres précieuses, de piliers, de colonnes, ou des fragments, des inscriptions, et tout ce qui est ancien. Il prévoyait même le financement de ce musée, qui devait être en pierre pour que ça ne se brûle pas, et il proposait soit de l'installer à l'île de Chios, soit à Byzance. Quand il dit Byzance, apparemment, il parle de Constantinople. Donc ça se passe en 1807. Corail ne va pas abandonner cette réflexion. On trouve trace de sa pensée dans une lettre qu'il va écrire durant la période révolutionnaire à Mavrocordatos, en 1823. Et dans cette lettre, il affirme l'importance de la réunion et du sauvetage des restes de l'Antiquité grecque. Donc, j'ai donné comme exemple Corail. Maintenant, je vais me référer à un autre exemple qui est souvent utilisé pour prouver que les Grecs, même avant la période révolutionnaire, et les étrangers aussi qui étaient en Grèce, s'occupaient de la sauvegarde de monuments. Donc, je veux parler de la fondation de Philomousos Etheria, la Société des Amis de Muse, qui était fondée le 1er septembre 1813 par 4 Athéniens. Il y avait plusieurs membres. On avait au total 53 Grecs. Et 50, parmi ces Grecs, il y avait essentiellement des notables et de prêtres, des gens qui appartenaient également à l'Église. Et en ce qui concerne les étrangers, il s'agissait essentiellement de Britanniques. On ne trouve pas de Français. Et il s'agissait donc d'une société qui, d'apparence d'abord, devait s'occuper de l'amélioration du niveau éducatif des Grecs. Capodistre, qui à l'époque était au service du tsar, et il considère qu'il y avait également des raisons politiques qui se cachaient derrière sa formation. Et le problème, c'est que cette société, d'abord, elle ne prend pas vraiment de mesures pour les antiquités, c'est durant la révolution qu'elle va intervenir. Et puis, dans ses membres, on trouve, et parmi les Grecs, Alexandros et Lorfetis Choniatis, qui était consul britannique à Athènes, et c'était chez lui, je vais vous montrer par la suite des images de sa maison, où le lord Elgin avait stocké les marbres du Parthénon, et Lorfetis, il était souvent mêlé à ces trafics d'antiquité. Et bien sûr, le chef de cette société de Muse est Gropius, qui lui aussi, il était consul à Athènes, il était consul d'Autriche, et lui aussi, il avait participé à ces trafics de collections. Donc, la fonction de cette société n'est pas tout à fait claire. En tout cas, elle va jouer un rôle durant la période révolutionnaire. Et cette fondation des sociétés des Amis de Muse à Athènes fut rapidement suivie de celle de Vienne, hein, fondée l'année suivante, donc en 1814, par Capodistria, Antimos Gazis et l'archevêque d'Hongrie et de Valachie. Si l'élite intellectuelle grecque espérait à la régénération de la nation via le rappel de la mémoire de l'illustre passé, la population locale, dont on peut distinguer des notables et des gens du peuple qui sont souvent accusés par les Occidentaux d'ignorance, c'est toujours ce stéréotype également de vandalisme qui vient, donc les gens du peuple qui appartiennent aux classes inférieures, avaient néanmoins une familiarité visuelle et une familiarité tactile avec les monuments et les antiquités auxquels la population accordait une puissance souvent surnaturelle. Rappelons les cariatides de l'Érechthéon qui pleurait pour leur sœur qui a été enlevée. Rappelons aussi la réaction de la population locale quand Edward Clark a enlevé la statue colossale de Cérès à Eleusis. Donc, leur contact avec l'Antiquité était direct, puisque les monuments faisaient partie de leur espace et de leur vie quotidienne. En labourant leurs champs, les paysans mettaient en lumière, parfois de manière involontaire, des antiquités. N'oublions pas aussi qu'ils participaient, en tant qu'ouvriers, aux fouilles qui étaient menées par les Européens. Les sources que nous avons pour étudier les relations conflictuelles ou pas entre les Occidentaux et les Grecs sont limitées. Il s'agit essentiellement de récits de voyages ou de rapports rédigés par des Occidentaux. La presse grecque de l'époque, parfois même la presse européenne, et nous avons également la législation dans l'État qui est en train de se former et la correspondance de l'administration grecque. Quand je dis de l'administration, ça peut être entre le gouverneur ou les dirigeants et l'administration, ou entre des gens, des citoyens, le gouverneur et l'administration. Et pour la période révolutionnaire, bien sûr, nous avons également une documentation ottomane, qui d'ailleurs n'est pas facilement accessible, j'allais dire. Et donc, ces sources fournissent des informations relativement restreintes, dans le sens qu'elles concernent des cas individuels et qu'en général, nous n'avons pas en même temps les témoignages de deux côtés. Quand les Occidentaux parlent, ils donnent des informations, mais ces informations ne sont pas toujours fiables. D'ailleurs, on l'a récemment vu, on vient de le voir tout de suite, avec la Vénus de Milo. Donc, quand on analyse les récits de la littérature de voyage, on dit que ces récits sont plus représentatifs et plus révélateurs de celui qui parle, donc de l'auteur, que de personnes qu'il décrit. Donc, même si dans les récits, le voyageur apporte parfois le discours et les activités de population locale, leurs propos ne sont pas déniés de parties prises. Donc, nous avons également souvent la population locale qui est muette. Hein? Elle ne nous donne pas son propre avis. Un élément qui ressort des récits de voyageurs ou des résidents qui participent au commerce des antiquités est que la population locale en collectionnait aussi. En effet, dans les correspondances des archives nationales figurent des propriétaires de plusieurs pièces qu'ils destinaient parfois à la vente pour se soustraire d'une situation économique sans issue, non seulement durant la période ottomane, mais aussi durant la période révolutionnaire. Difficilement, on pourrait parler d'une attitude homogène face aux antiquités de la part des Grecs. Certains voyageurs, comme Pouqueville, consul à Yanina à la cour d'Ali Pacha, mentionnent également les transactions qu'ils avaient avec les paysans pour l'achat des antiquités découvertes dans leurs champs. Il dit notamment qu'à Mégare, un papa un prêtre grec, qui passa une partie de sa soirée avec eux, lui vendit des médailles et lui indiqua plusieurs marbres, parmi lesquels son frère, le frère de Pouville, acheta dans la suite deux pédouches, réservant à d'autres temps l'acquisition d'objets plus précieux. Tentons aussi que parfois la transaction ne se réalise pas à cause du prix élevé demandé. Je cite, « Quelques paysans qui labouraient aux environs nous offrirent des médailles romaines, que je n'achetais pas à cause du prix exorbitant qu'ils en demandaient, » dit Pouqueville. Si pour les médailles et les vases, ce sont des antiquités portables, portables dans le sens de transportables, leur argent et leur achat se passaient en général sans problème, pour des sculptures ou pour des antiquités qui avaient une valeur esthétique ou commerciale élevée, il y avait des réactions parfois très fortes de la population locale et il y avait également une pression aussi forte de la part des acheteurs. Pouqueville parle de la violence exercée contre un berger de l'Attique auquel un grand amateur d'antiquités, accoutumé à acheter pour rien ce qu'il revend fort cher, avait arraché un camée précieux en faisant emprisonner cet homme par les voïvodes d'Athènes qui fixa le prix de sa pierre précieuse d'une manière plus qu'arbitraire. De tels cas existaient. De son côté, Thomas Matthews, dans Travels in Sicily, Greece and Albania, rapporte que Psalidas, que vous voyez ici à droite, Athanasios Psalidas, qualifia Coquerel, qui avait enlevé la frise du temple d'Apollon à Bassée, de pilleur de tombeau, et il a dit aussi qu'il commettait du sacrilège. Il dit qu'il était timvorichos και ιερόσιλος. Ces témoignages offrent quand même un aperçu de réaction des Grecs. Donc à ces témoignages, il faudra ajouter aussi ceux sur le marbre du Parthénon et de la cariatide de l'Érechthéon par Elgin, ainsi que sur la statue colossale de Lessis par Edward Daniel Clark ou sur la Vénus de Milo, qui malgré l'intervention des notables et la réaction des populations qui ne voulaient pas s'en séparer, hein, donc toutes ces sculptures en question ont été expatriées. Maintenant, j'aimerais citer encore certains exemples concernant la constitution de collections par des Grecs. La pratique de la collection n'était pas étrangère aux Grecs. Influencés par l'engouement des Occidentaux pour la collecte des antiquités, ils collectionnaient des antiquités transportables. Il s'agit bien sûr de membres de l'élite locale qui accumulaient puissance économique, prestige social et souvent pouvoir politique. À l'instar du voyageur et des étrangers résidant de l'espace grec, les dignitaires grecs, donc appartenant aux couches supérieures de la société, constituaient des collections d'antiquités. Quoique les sources de l'époque concernant les pratiques de collecte soient limitées, elles nous renseignent néanmoins sur certains cas. Donc on sait qu'il y en a qui l'Orofeti, notable de Livadia, avait un vase que d'autres elle avait vu, mais que ces vases étaient déjà décrits par Scrofani. Ayane, Athanasios Psalidas, qui accusait Coquerel, qui était directeur de l'école Kaplanios, avait une collection de médailles. De même, à la cour d'Ali Pacha, son médecin philosophe Georges Sakellarios, iatrophilosophos, c'est pour cause de médecin philosophe, avait formé une importante collection de médailles qui provenait, d'après Hollande, il était un autre voyageur, de Pyre à Carnani et d'autres villes de la région. Néanmoins, malgré la richesse de sa collection, Sakellarios était, d'après Thomas Hughes, auteur de Travel in Sicily, Greece and Albania, complètement ignorant de leur valeur, puisqu'il ne les avait pas classées et il les regardait comme un enfant se jouait. De toute évidence, il s'agissait d'une collection importante, c'est ça que le voyageur nous dit, quoiqu'elle ne puisse pas être comparée à celle du marsan Zois Zosimas, dont la collection comptait environ 18 000 médailles classées selon les normes de l'époque. Zosimas était un grec, il avait cette collection de 18 000 pièces, mais cette collection se trouvait en Russie. Parmi les collectionneurs figure aussi Theoharakis Rendis, notable de Corinthe, qui était notamment propriétaire de trois statues qu'il avait achetées à Mégare avant la Révolution. Après sa mort, Gropius, hein, le consul d'Autriche à Athènes, intervenit pour qu'elle soit vendue à Carl von Heidegger. Mais comme il y avait la législation à l'époque, l'État grec a remboursé Heidegger et les a achetés de l'épouse de Theoharakis, Hélène. Iosipos Doukas était un médecin originaire de l'île de Samos et contributeur régulier de la revue Logios Hermis. Il était venu également à Paris pour étudier. Après, il était revenu en Grèce et il s'était constitué une collection de 52 stèles funéraires qui provenaient de l'île de Renée, c'est une île à côté de Delos. Il propose à Capodistria de lui montrer les antiquités qu'il avait dans sa possession et il s'agissait d'une collection extrêmement importante qu'on lui avait demandé également de proposer pour l'achat au tsar de Russie. Et ici, vous avez la maison de la famille de Chromatianos Logothetis à Athènes. À gauche, il s'agit d'une image qui montre l'intérieur de la maison qui provient des Antiquities of Athens, les antiquités d'Athènes de James Hewell et Nicolas Rivette. Et ici, c'est ce qu'il reste aujourd'hui de cette maison. Ici, vous avez des antiquités qui font partie de la collection de Gropius. Gropius avait une grande collection d'antiquités et il s'agit des antiquités qui étaient publiées dans Coquerel. Et ici, c'est l'image que vous avez vue à plusieurs reprises depuis ce matin. C'est la maison de Fauvel, où vous avez également une partie de la frise du Parthénon. Donc, c'était également à Athènes une maison qui avait des antiquités. Et, durant la guerre d'indépendance, les monuments d'Athènes, surtout ceux de l'Acropole, souffrirent des hostilités militaires. De plus, le pillage des antiquités et leur commerce continua sans relâche. L'enlèvement des antiquités de grande importance, donc de marbre de Parthénon, sculpture de Passé, Vénus de Milo, et la mutilation des monuments athéniens. Ici, vous avez la cariatide de Leucis. Ici, vous avez le marbre du Parthénon. Hein. Ici, vous avez Coquerel et une image du temple d'Apollon à Passé. Ici, vous avez Vénus de Milo. Donc, il s'agit des antiquités qui, par la suite, vont acquérir la notoriété, la célébrité, et ils vont avoir également une valeur symbolique. Donc, tout ça, ça se passe avant la Révolution. Donc, durant la Révolution, nous avons en plus Acropole qui souffre. Et tout ça va être à l'origine de la promulgation de décrets et de lois du gouvernement provisoire d'abord, visant à protéger les monuments. Progressivement, donc, on assiste à l'expression d'un intérêt officiel pour la protection des antiquités. Les pratiques des étrangers, est fustigée. Suite à l'enlèvement d'autres antiquités par le colonel Rottier, hollandais, il est hollandais, Alexandre Mavrocordatos envoyait une lettre de Nopli le 9 septembre 1825 qui explique que l'exportation d'antiquités n'était pas autorisée. Sa publication, la publication donc de la lettre de Mavrocordatos à Γενική Εφημερίδα, donc dans le journal général, diffusa cette information dont le pays révoltait. Donc il s'agit d'un premier effort. Il a fallu attendre la troisième assemblée nationale grecque qui a élu Ioannis Kapodistrias comme gouverneur de la Grèce pour que les antiquités soient légalement protégées. Votée en 1827, sa nouvelle constitution de 150 articles comprenait également un article du 18e qui stipulait que les commandants devaient veiller à que les antiquités ne soient pas vendues ou exportées. Cette constitution fut ratifiée par la 4e Assemblée nationale d'Argos en 1828. La loi apporta rapidement ses fruits puisque le 18 novembre 1827, le secrétaire des affaires intérieures et de police louait les notables de Syrah pour avoir empêché l'enlèvement des antiquités par les comtes de la Borde. Les comtes de la Borde étaient en voyage en Méditerranée parce qu'ils ont respecté la loi. Donc les notables ont respecté la loi et ils ont empêché les comtes de récupérer les antiquités. L'interdiction, néanmoins, d'exportation limitait les revenus du propriétaire d'antiquités. Donc, prenant la place des étrangers, l'État était prêt à rembourser le propriétaire. Donc, on incitait le propriétaire à rendre les antiquités à l'État et en échange, on allait les payer. Donc, on remboursait, comme dans les cas du remboursement qu'on a donné à des étrangers qui avaient versé pour l'achat des antiquités, acheté à Delos et à Milos le 8 avril 1829. Donc, il y avait des Grecs qui avaient donné des antiquités aux étrangers et l'État a remboursé les étrangers pour récupérer ces antiquités. Durant les années du gouvernement de Capodistria, les autorités grecques ont essayé de limiter l'enlèvement et la vente des antiquités ainsi que les fouilles sans l'autorisation du gouvernement en promulguant une série de lois, de décrets et de circulaires publiés dans les journaux officiels de l'époque appelés Γενική Εφημερίδα. Ce qui était donc publié à l'époque du gouvernement de Capodistria précise le moyen de protection du patrimoine archéologique du pays. Un décret promulgué par Capodistria le 12 mai 1827 répétait au commissaire de la mer Égée l'interdiction d'exporter des antiquités et qu'il leur disait qu'ils devaient les céder de préférence au gouvernement. Donc c'était à eux de les céder. L'État quand même n'avait pas le moyen de se déplacer dans toutes les îles pour récupérer de force ces antiquités. Ça c'est la situation, si vous voulez, du point de vue légal. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? La Grèce n'est pas encore libérée et les Grecs ont besoin de Français. Donc, en 1828, il y a le corps expéditionnaire de Morée qui va arriver en Grèce. Il s'agit d'un corps conçu, donc d'une expédition militaire conçue selon les systèmes de l'expédition française, de l'expédition militaire française en Égypte. Elle est commandée par le général Maison. Et à cette expédition militaire, nous avons également une mission scientifique des savants. Et donc, on a besoin de l'aide militaire et Capodistria est prêt à modifier un peu la loi en disant que oui, les exportations sont défendues, mais on peut permettre l'exportation de fragments pour des raisons scientifiques. Donc, il y a une nouvelle résolution votée par la 4e Assemblée, et ce qui donne le droit à la section d'archéologie de la mission scientifique de Morée, qui débarqua le 3 mars 1829, d'effectuer tranquillement les fouilles. Durant toute cette période, Capodistria va envoyer des circulaires qui disent aux notables et à l'administration de la région, donc nous sommes dans le Péloponnèse, de faciliter la tâche de cette mission scientifique. En général, les travaux se réalisent sans problème, mais quand il y avait des réactions de la part de la population ou de l'administration, Dubois, qui est le directeur général de la direction d'archéologie, menace. Il dit, je cite, « Dans le cas où il me serait enjoint de cesser mes excavations, je me verrais forcé, malgré moi, de m'en plaindre au chef de votre gouvernement, au ministre dont je tiens ma mission, et à monsieur le général en chef de l'armée française. » Donc, ici également, il s'agit d'une attitude tout à fait coloniale, hein, même si la Grèce n'est pas colonisée. Quelques mois plus tard, le 28 novembre, le général Schneider demande qu'on lui livre deux questions remplies de vases antiques que la police grecque avait gardées afin qu'il les envoie en France. Finalement, les sculptures du temple de Zeus à Olympie, ainsi que d'autres antiquités, furent acheminées en France. Dans le même esprit d'avoir de l'aide politique et militaire, est conçu un circulaire que Capodistrias envoie aux autorités afin de faciliter la tâche de Friedrich Thiers. Le 22 septembre 1831, à Capodistre, les renseigne que le gouvernement donnerait des antiquités au musée du roi de Bavière en échange des livres, des tableaux géographiques, de chimie ou de physique et du matériel nécessaire pour les écoles. Quelques jours plus tard, les responsables de l'éducation du gouvernement renseignent le notable Saint-Georges que Thiers y arrive afin de faire des fouilles et de découvrir des antiquités. Notons également qu'à la même période, l'application des différentes lois votées n'était pas toujours bien reçue. Et donc, nous avons plusieurs circulaires qui rappellent à l'administration à l'interdiction de vente et d'exportation des antiquités. Il s'agit de ces circulaires qui stipulent que ceux qui sont propriétaires ou ceux qui connaissent l'endroit où se trouvent des antiquités, qu'ils devaient les déclarer auprès des autorités. Les différents circulaires rappellent également que les fouilles sans l'autorisation de l'administration sont interdites. Parfois, les ministres se plaignent de l'indifférence des paysans qui croient qu'ils aient des antiquités, ils ne les déclarent pas. Et également, on a une correspondance qui révèle que malgré les interdictions, on continue à vendre des figures éminentes, par exemple, aux consuls français, britanniques, qui se trouvaient dans les îles. L'administrateur de Sifnos, s'adressant à la commission de l'éducation religieuse du public du gouvernement, accuse le notable de Milos qu'il n'appliquait pas les décrets concernant les antiquités. Il précise aussi qu'il y avait la rumeur qu'une tête était vendue au vice-consul français. Il prévenait aussi le gouvernement de l'arrivée imminente d'une frégate américaine qui viendrait à Lille pour faire de fouilles. Donc, ça, c'est la situation. Et Capodistre, pour faire face à cette situation, il va décider également de fonder l'orphelinat de Gênes. C'était d'abord pour abriter les orphelins de guerre, mais une partie de ces bâtiments était destinée également au musée. Donc, c'est ce musée que vous voyez ici, qui était fondé par le premier gouverneur de la Grèce et qui était présidé par Moustoxidis, qui était venu spécialement de Venise pour prendre la direction du musée, qui a réuni toutes ces antiquités qui étaient collectionnées de toutes les parties de la Grèce. Capodistrias a été assassiné en 1831. Moustoxidis était obligé de partir juste après. Par la suite, nous avons l'arrivée d'Othon. Il devient le roi Othon, le premier roi des Grecs. Et c'est en 1834 qu'on va avoir la première loi archéologique grecque, qui était rédigée par un des conseillers du roi Othon, qui donne beaucoup de détails, comment il faut protéger les antiquités, où il faut les placer, etc. Et en 1834, nous avons également la fondation de la Société archéologique grecque. Et donc, j'essayais de présenter un petit panorama de l'émergence de cette conscience patrimoniale en Grèce. Comme nous avons pu constater, tout d'abord, l'amour pour l'Antiquité, le besoin de préserver cet héritage culturel commence d'abord par l'élite. Mais en même temps, on voit qu'il y a la population locale, même les gens du pays, qui réagissent, surtout quand il y a des grands monuments, des monuments auxquels ils sont attachés, quand donc ces grands monuments sont expatriés. Et l'enlèvement des monuments qui par la suite vont devenir des monuments symboliques de la Grèce ancienne était à l'origine de mesures qui étaient réalisées au fur et à mesure, parce que ce n'était pas facile de changer tout de suite la mentalité des gens du pays. Et puis, il y avait toujours les étrangers qui exerçaient une pression pour récupérer ces antiquités, pour les confisquer, pour les spolier. Et en tout cas, on voit qu'à la fin du gouvernement de Capodistria, les bases ont été bien mises pour la protection de ces monuments et que dans la conscience de la population, c'était un devoir de protéger ces patrimoines. Et pour terminer, je voulais dire que ce n'était pas seulement les intellectuels qui réagissaient. Et l'exemple le plus connu reste d'un grand militaire de la Révolution grecque, de Makrianis, qui avait réagi contre la vente de statues qui étaient d'une valeur esthétique très importante en disant qu'il ne faut pas le vendre parce que c'est pour ce marbre que nous sommes battus contre les Turcs. Merci.